Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore heureux. Arthur Schopenhauer a dit « La vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. » Arthur n'était pas, c'est le moins que l'on puisse dire, un guéluron. Né à Danzig le 22 février 1788, son père est un riche négociant de 40 ans qui lit le Times au petit déjeuner et sa mère, de 20 ans plus jeune, est la fille d'un magistrat. À 11 ans, le jeune Arthur entre dans une école privée, un institut de commerce de Hambourg, mais 4 ans plus tard, son père lui propose de faire un grand voyage. Et le jeune Schopenhauer, à 15 ans, part sur les routes d'Europe. Ce sera pour lui un véritable voyage initiatique, où il découvre la beauté de la vie en même temps que son insondable tristesse. Il assiste à des pendaisons, il visite des asiles d'aliénés, se rend au bagne de Toulon où croupissent 6000 galériens. Choqué par la misère du monde, il n'en est pas moins saisi par sa beauté. Il s'extasie devant les couchers de soleil, il adore faire de longues promenades, il gravit des sommets près de Chamonix et dans les monts des géants. Pour autant, il n'est pas dupe de la beauté. Elle ne rachète pas, selon lui, la tristesse de la vie. Il écrit « Un optimiste m'ordonne d'ouvrir les yeux, de plonger mes regards dans le monde, de voir combien il est beau à la lumière du soleil, avec ses montagnes, ses vallées, ses fleuves, ses plantes, ses animaux. Mais le monde est-il un panorama ? Non, le monde n'est pas un panorama. Et il est en outre peuplé d'individus dont la compagnie est presque toujours affligeante. » En 1806, le père de Schopenhauer fait une chute qui ressemble à un suicide. Il est retrouvé flottant sur un canal. S'estimant libéré de sa promesse de devenir commerçant, Arthur choisit un autre cap. « La vie est un dur problème, dit-il, et j'ai résolu de consacrer la mienne à y réfléchir. » En 1807, il entre au lycée de Gotha. Il apprend le latin, il est renvoyé pour s'être moqué d'un de ses professeurs. Il entre ensuite au lycée de Weimar, celui de Goethe, où il réside désormais. Goethe, qui voit dans le jeune étudiant un véritable génie. Et au cours d'un bal masqué, il rencontre l'actrice Caroline Jagemann, dont il tombe amoureux. Il s'inscrit à l'université de Göttingen pour étudier la médecine. Il suit des cours d'anatomie, notamment du cerveau, et de physiologie. Il s'inscrit à la faculté de philosophie. Il découvre les œuvres de Platon, d'Aristote, de Kant. Il étudie aussi les sciences naturelles, l'astronomie, l'histoire. En 1811, il s'installe à Berlin et s'inscrit aux cours de chimie, d'électricité, de zoologie et de physique. Alors que les troupes françaises de Napoléon Ier menacent Berlin, Schopenhauer se rend dans la petite ville de Rudolstadt, proche de Weimar, et installé dans une auberge, il rédige sa thèse de la quadruple racine du principe de raison suffisante. Il est reçu docteur en philosophie et peut dorénavant enseigner à l'université. La souffrance, selon lui, est le fond de l'existence humaine. Cette souffrance d'exister provient du fait que l'homme est constamment déçu, c'est-à-dire que dès qu'un désir est satisfait, il en vient un autre qu'il faudra à nouveau réaliser et ainsi de suite. C'est ce qu'il appelle la volonté de vivre, autrement dit l'instinct, qui nous fait désirer et donc être ensuite déçu. Mais si l'on tue le désir, c'est l'ennui qui pointe. Ainsi, l'homme est déchiré entre ces deux malédictions, souffrance et ennui. Pour résoudre cette douloureuse équation, comme Nietzsche après lui, il va s'intéresser de près au bouddhisme et reprendre l'idée selon laquelle seul le détachement permet d'atteindre la délivrance, autrement dit le nirvana. Il est, bien sûr, très agacé par la frivolité de la bonne société de Weimar, qui ne pense qu'à s'amuser, se nourrit de petits théâtres et de petites intrigues. Il vit à part, évitant au maximum la familiarité des hommes. Il les compare à des hérissons qui ne peuvent se toucher sans se piquer, ni rester loin les uns des autres sans avoir froid et vouloir se rapprocher. Il est très dur, en particulier avec les femmes qu'il traite de puériles, futiles, bornées, dépensières, traîtres et injustes. Elles ne sont qu'une sorte d'intermédiaire entre l'enfant et l'homme. Il se dispute d'ailleurs fréquemment avec sa mère. Il ne supporte pas sa vie mondaine, ni les livres qu'elle écrit et qui, contrairement aux siens, rencontrent le succès, mais sont totalement oubliés aujourd'hui. Il la rend en outre responsable du suicide de son père. Il lui en voudra jusqu'à la mort. Madame, ma mère, donnait des soirées tandis que mon père s'éteignait dans la solitude. Elle s'amusait, tandis qu'il se débattait dans d'intolérables souffrances. De son côté, Johanna Schopenhauer reproche à son fils son humeur chagrine, qui consiste systématiquement à tout contredire, sa vision profondément négative de la vie. Ne pouvant plus se supporter l'un l'autre, ils ne communiquent plus que par lettres. Johanna écrit à son fils. La porte que tu as claquée si bruyamment après t'être conduit d'une façon très inconvenante avec ta mère, cette porte s'est fermée pour toujours entre moi et toi. Je suis lasse de continuer à supporter ta conduite. Je vais à la campagne et je ne rentrerai pas avant de savoir que tu es parti. Ainsi, Schopenhauer quitte la maison de sa mère. Il ne la reverra plus jamais. Johanna meurt en 1838, en ayant bien pris soin au préalable de déshériter son fils.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
En 1814, Schopenhauer part à Dresde où il commence la rédaction de son grand ouvrage « Le monde comme volonté et comme représentation » qui sera publié 4 ans plus tard. Ce livre, un pavé de 1000 pages, va révolutionner la philosophie. Le monde comme volonté, car la nature, y compris l'homme bien sûr, est l'expression d'une volonté insatiable de vie, de reproduction, d'expansion féroce. Et le monde comme représentation, car nous ne connaissons de lui que la manière dont il se présente à nous, la manière dont notre conscience humaine, donc les limites de notre cerveau, est capable de voir. Cette première édition n'a aucun succès. 100 exemplaires seulement sont vendus. Schopenhauer demande alors à enseigner à l'université de Berlin, notamment parce qu'il a quelques ennuis financiers. Il se trouve qu'il fait cours en même temps que le très respecté Hegel, que Schopenhauer méprise souverainement. Il le traite de « lourd charlatan ». Cependant, des centaines d'étudiants se pressent pour entendre Hegel, tandis que l'auditoire de Schopenhauer est composé de 4 étudiants. Un conseiller de la cour impériale, un dentiste, un écuyer et un commandant en retraite. Au bout d'un semestre, Schopenhauer jette l'éponge. À cette période de sa vie, il ne supporte plus grand monde. Colérique, rageur, il pousse dans l'escalier une voisine un peu trop commère à son goût, une certaine Caroline Louise Marquet, qui, à l'aide d'un médecin, va le faire condamner à lui verser une rente annuelle à vie. Irascible, il est aussi ravagé par l'angoisse. Il écrit dans son cahier secret « Je tiens de mon père une angoisse que je maudis et combats de toutes mes forces. Je n'avais que 6 ans lorsqu'en revenant d'une promenade, mes parents me trouvèrent un soir plongé dans le plus profond désespoir parce que je m'étais tout à coup senti abandonné d'eux pour toujours. Adolescent, j'ai été tourmenté par des maladies et des querelles imaginaires. À l'époque de mes études à Berlin, je fus un temps persuadé que j'étais phtisique. La peur de la variole me chassa de Naples, celle du choléra de Berlin. À Vérone, j'ai été envahi par l'idée fixe d'avoir pris du tabac à priser empoisonné. Des années durant, J'ai vécu dans la peur d'un procès criminel, dans la peur de perdre ma fortune. Quand survenait un bruit au cours de la nuit, je sortais du lit et prenais une épée, ainsi qu'un pistolet que je maintenais constamment chargé. Même quand ne se produit aucun événement marquant particulier, je porte en moi une constante inquiétude intérieure qui me fait voir et chercher des dangers là où ils n'en existent pas. Cette inquiétude fait grossir à l'infini la moindre contrariété et finit par compliquer le commerce avec autrui. Quand je n'ai rien qui me tourmente, je suis tourmentée par l'idée qu'il devrait pourtant y avoir quelque chose qui me demeurerait caché. En 1822, Schopenhauer repart en voyage, en Italie et à travers l'Allemagne. Malade, il devient sourd d'une oreille. Ce n'est que 10 ans plus tard qu'il s'installe définitivement à Francfort, où il vit de ses rentes. Il joue de la flûte le matin, du Rossini. Avant de se consacrer à son travail, il prend ses repas à l'hôtel d'Angleterre, où il lit les journaux, notamment le Times, comme son père. Son emploi du temps est très régulier. Le climat de Francfort est le plus agréable et le plus sain de toute l'Allemagne, écrit-il, et les environs sont charmants. On vit beaucoup mieux et pour beaucoup moins cher qu'à Berlin. Les hôtels et les restaurants sont les meilleurs de toute l'Europe. Il y a un bon théâtre, bref. C'est le meilleur endroit de l'Allemagne. Et en ce qui concerne la société, qui est, je crois, encore plus sotte que partout ailleurs, elle ne me dérange pas. Il y a trop longtemps que la fréquentation des hommes me dégoûte et que je sais qu'ils ne valent pas la peine de perdre mon temps avec eux. Les exceptions sont très rares. Je vis donc en solitaire, avec mon caniche blanc, une bonne bête, très intelligente. Avec ma bibliothèque, que j'ai fait venir, et je suis bien loin de m'ennuyer. Le caniche blanc se nomme Atma, qui signifie « âme du monde » en sanskrit. Schopenhauer lui voue une véritable passion. Il fera de lui l'un de ses héritiers.
Il était où le gentil Tiyuki ? Où il était le gentil Titoutou ? Il était où, hein ? Il était où ? Où il était le gentil Tikiki ? Et où il est le pépère Wawa ? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère ? Il était où, hein ? Son papa ? Le bon pépère que son kiki préfère ? Et sa mémère alors ? Et sa mémère ? Où elle est la mémère à sa nounouche ? Elle était où, hein ? Sa mémère ? Qui donne du susuki avec la boubouche ? Il était où, hein ? Le Yuki ? Il était où le gentil Titoutou ? Il était où, hein ? Le Yuki ? Le gentil Titoutou ? Il était où ? Où c'est qu'il était son papi et son pépère, où c'est Katie, où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie.
Où ça, hein, où ça, où ça, hein, où ça.
Il était là le bouchou Kikichou, il était là le plus beau des cookies. Il était là qui, le poupoupou, le plus joli de tous les bonouki. Et c'est à qui tout ça? C'est à Kiki. C'était les papates poilus. Il a que, hein? C'était à qui? C'est à Yuki la queue qui remue. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'était le mignon choupignou? À qui c'était, hein? Le beau Yuki? À son papy ou bien à sa nounou? Il est à qui, hein? Le kiki. Il est à qui le gentil titoutou? Il est à qui, hein? Le Yuki. Le gentil titoutou, à qui c'est-il? C'était pas à son papi, à son pépère, alors à qui il était le Yuki, si c'était pas à sa mamie?
À qui, hein? À qui? À qui, hein? À qui?
Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là le vilain! Kiki a mangé des bouts de caca. Non mais des fois, oh vilain tout plein. Non mais Kiki, qu'est-ce qui m'a fichu ça? Veux-tu venir ici gros dégoûtant? Et pas bouger, assis debout couché. à son panier. Oh, le méchant va te coucher, son pépère est fâché.
Kiki t'a vu, pépère est en colère. Le pépère a you qui fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère, on n'est pas malheureux.
Le plus cucu, hein, c'était qui? Mais qui c'est qui des deux le plus neuneux? Le plus neuneux, hein, c'était qui? C'est qui le plus cucu des deux? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui?
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'était pas le Yuki.
En 1851, Arthur Schopenhauer publie Parerga et Paralipomena, qui signifie accessoires et restes. Il y traite de sujets insolites comme la laideur des barbes, la bêtise des universitaires, la bonté des chiens ou l'intérêt des tables tournantes. L'ouvrage est un succès de librairie et du jour au lendemain, le solitaire hypochondriaque de Francfort devient célèbre. Richard Wagner le découvre. Des disciples se forment autour de lui. Il est très souvent photographié. Une artiste reste même chez lui pendant un mois pour sculpter son buste. Le monde comme volonté et comme représentation se vend. Enfin, on vient de partout écouter le philosophe allemand à l'hôtel d'Angleterre. Et c'est donc en pleine gloire, à l'âge de 72 ans, que l'illustre philosophe s'éteint subitement d'une pneumonie. Il meurt, assis sur son canapé. Quelques jours avant, il avait déclaré « Eh bien, nous nous en sommes bien tirés. Le soir de ma vie est le jour de ma gloire. Et je dis, en empruntant les mots de Shakespeare, « Messieurs, bonjour, éteignez les flambeaux, le brigandage des loups est terminé, regardez la douceur du jour, qui, devançant la voiture de Phébus, inonde l'Orient encore ivre de sommeil. » Moins lyrique, mais tout aussi efficace, la seule mention sur sa tombe est Arthur Schopenhauer.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
Je vous invite à lire deux petits livres d'Arthur Schopenhauer, sans doute les plus connus, L'art d'avoir toujours raison, très pratique. Schopenhauer y expose une série de stratagèmes permettant de sortir victorieux de tous les débats. Et bien sûr, l'art d'être heureux à travers 50 règles de vie écrites, choses étonnantes par le maître du pessimisme. Mais pas d'emballement, il ne s'agit pas tant d'être heureux que d'être le moins malheureux possible. Nous voilà rassurés. Chers auditeurs, merci. Le portrait du mois de novembre sera celui de la célèbre abbesse médiévale, écrivaine, poétesse, diplomate et guérisseuse, l'ancêtre d'une certaine façon des naturopathes, Hildegarde von Bingen. Bonne journée à tous et à très bientôt sur Radio B.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. C'est-à-dire qu'une solitude qui en rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.